prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors, à l'attaque!
Selon Wikipédia, en France, l'habitat participatif, aussi appelé habitat groupé, s'est développé au XXe siècle. C'est une démarche citoyenne où des personnes se regroupent pour concevoir ensemble leur logement et des espaces mutualisés. Je pense que, bien avant ça, les populations qui se sont succédées vivaient dans un habitat participatif, probablement avant de devenir civilisées et de finir par promouvoir l'individualisme. En 2014, la loi Allure a modifié le code de la construction et de l'habitation pour permettre, tout en l'encadrant, la création de sociétés d'habitat participatif, de coopératives d'habitants et de sociétés d'autopromotion, promotion immobilière autogérée par les habitants. Je vous épargne la définition de l'habitat participatif définie dans cette loi. Vous pouvez parcourir Internet ou Wikipédia si ça vous amuse. En revanche, selon l'étude d'impact de cette loi, cette troisième voie pour le logement désigne tout regroupement de ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d'un bâtiment collectif, avec, selon les cas des valeurs essentielles de non-spéculation, de solidarité, de mixité sociale, d'habitat sain et écologique. La mutualisation d'espaces, de services et de ressources permettant de réduire les coûts et d'autres formes d'être ensemble. Il s'agit aussi d'une réappropriation de la conception et de gestion du lieu et des conditions de vie. Le lien social et la responsabilité sont mis en avant dans une fabrication plus participative et moins consommatrice de la ville. En France, d'autres termes sont couramment employés, l'habitat participatif, l'habitat groupé, l'habitat coopératif, l'habitat en autopromotion, une combinaison des termes, par exemple éco-habitat groupé participatif. On pourrait même parler des écolieux, des communautés, j'en oublie probablement. Bref, que ce soit dans un souci d'économie, d'écologie ou du vivre ensemble, ce mode d'habitat semble très attirant et nécessiterait à être davantage promu. Pour en parler ce mois-ci dans la tactique, nous recevons Benoît Filiou, président de Frat Habitat Intergénérationnel Reims. Bonsoir Benoît, bonsoir Cécile, bonsoir Sylviane.
Bonsoir.
Bonsoir.
Benoît, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, juste, peux-tu nous expliquer ce qu'est Frat Habitat Intergénérationnel? Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association?
Alors, je n'ai pas assisté à la création de l'association qui a 10 ans cette année, mais c'est un ensemble de valeurs qui a rapproché des gens dans le dessein d'un jour pouvoir habiter ensemble et pouvoir partager tout ce qui peut permettre une vie plus agréable. Donc, dans ces valeurs, donc, il y a la démocratie, c'est-à-dire que dans l'association, tout le monde a son mot à dire. Et tous les futurs habitants, quelles que soient leurs conditions, qu'ils soient mineurs ou majeurs, parce que les enfants aussi ont leur place, ont un rôle à jouer et doivent participer à la vie de l'association. Donc, il y a aussi évidemment la solidarité qui s'exprimera en particulier par une mutualisation des moyens, aussi bien sur le financier que dans les compétences de chacun, parce que ce qui dans participatif, il y a participé. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que chaque adhérent de l'association qui souhaite réaliser cet habitat soit co-constructeur du logement. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement quelque chose de passif qu'on va recevoir clé en main, mais on va concevoir dans le choix des matériaux, dans la disposition des salles, dans l'attribution des lieux, que tout ça soit fait en commun. Donc, ce sont des lieux de vie, donc ce sera du coup des cellules de base pour la vie citoyenne. et aussi donc avec le respect de l'écologie, aussi bien sur le choix des matériaux que sur la manière de vivre ensuite une fois que ce sera construit.
D'accord. Et alors, j'ai bien compris, tu as passé à la création de l'association, mais là, par exemple, les personnes qui en sont membres, qu'est-ce qui les motive le plus ? C'est le vivre ensemble, vivre dans un logement écologique ou vivre intergénérationnellement ? Quel est le moteur pour la majorité des personnes ?
Pour la majorité, bon, c'est... En fait, je ne sais pas exactement quel est le moteur pour la majorité, parce qu'on n'a pas fait une listique, si tu veux.
D'accord.
Bon, ce qui regroupe les gens, et bon, il y a deux principales motivations, celle de vivre ensemble,
d'accord,
et celle de mener à bien un projet
ensemble.
De le mener ensemble.
Okay.
Et ce sont deux choses complémentaires, mais avec une motivation différente. Il y a, on est à peu près 70 membres, il n'y a qu'une trentaine de personnes qui ont volonté réellement d'ensuite résider, soit dans le projet qui est en cours, soit dans d'autres projets que l'on est en train de mettre sur rail.
D'accord.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont... Bon, qui ne sont pas décidés, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que bon, c'est les grandes idées, c'est toujours très intéressant sur le papier, c'est toujours très intéressant d'en discuter, mais une fois qu'on va les mettre en œuvre, c'est-à-dire une fois qu'on sera dedans, qu'on va vivre ensemble, ouais, ce n'est plus du tout la même chose. Et bon, ce qu'il y a, c'est qu'on se base quand même sur des expériences qui ont été réalisées un peu partout en France. On est fédéré à Habitat Participatif France. Il existe une carte de France, bon, qu'on ne peut pas montrer à la radio, évidemment, où il y a plus d'une centaine de réalisations qui existent déjà et plusieurs centaines qui sont en cours de réalisation. C'est un mouvement de fond. Je pense que les solutions pour le monde de demain se trouvent dans ce type d'habitat. C'est assez remarquable de voir que la Champagne-Ardenne est un désert. Il n'y a actuellement aucune réalisation. Si, il y a une réalisation dans les Ardennes, une petite réalisation, mais qui est très différente de ce que l'on va faire. Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est quelque chose qui est très novateur.
Pour ce qui est tout ce qui est alternatif, c'est le désert par ici, hein, quand même. Hein.
Oui, bah...
enfin, c'est pas très... que pour l'habitat, malheureusement.
Oui, c'est très novateur en Champagne-Ardenne, mais pas dans le reste de la France.
Non, pas
dans le... Mais il y en a ailleurs qu'en France, d'ailleurs. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à la pointe du progrès.
Non, par rapport à ça, non.
C'est clair. Moi, je dirais que ce qui soude les gens, c'est peut-être participer à une aventure. C'est une aventure de créer un lieu commun.
Ouais.
Aussi une aventure de vie démocratique, c'est-à-dire de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Et puis c'est peut-être aussi une aventure de retrouver un petit peu un sens à cette vie, de retrouver des liens. Et je pense que c'est ça l'aventure. Une aventure, ça c'est peut-être moi ce qui me paraît très important à vivre dans ce projet. Vivre ce projet, c'est une aventure.
Et
on ne va pas loin pour vivre l'aventure.
Non, non,
on reste sur place. Pas besoin de prendre l'avion.
Et surtout, la vivre ensemble.
Oui, bien sûr.
Et c'est le vivre ensemble, c'est effectivement, c'est à partir de cette notion-là que tout le reste va pouvoir s'articuler. Mmh. Parce qu'on doit partir des besoins des gens. Et non pas des besoins d'un promoteur, d'un maître d'œuvre et tout cela. Et donc, et à partir du moment où les besoins sont exprimés, nous, on peut avancer là-dessus. Si on ne peut pas avancer sur ce que les gens veulent, c'est pas la peine.
Sur ce que chacun veut, en fait. Parce que ce n'est pas les gens en général. C'est vraiment un projet qui est travaillé de façon...
Chacun doit s'exprimer.
Voilà.
Et donc, dire... Bon, il bon, y a des gens qui ont besoin de beaucoup de place, d'autres moins. Il y a des gens qui... c'est très varié. Mais à partir de là, et en respectant la charte de l'association...
Oui, bien sûr.
..que tout adhérent doit signer lorsqu'il veut adhérer, hein, et on va travailler là-dessus pour monter un projet... Mais par exemple, si il s'avère que le groupe des futurs habitants désire tous avoir une place de parking privative, ça ne va pas le faire. Ce n'est plus dans nos valeurs.
Ouais.
Et donc, justement, ces valeurs-là, est-ce que ça pose des difficultés? Parce que je peux me tromper, mais je pars du principe que pour votre projet, vous fonctionnez au consensus. Je peux me tromper, mais est-ce que c'est... Comment je pourrais formuler ma question ? Et quels sont les points de désaccord, justement, qu'il peut y avoir dans ce projet-là ?
Ben justement, je parlais des parkings. C'est un point très, très sensible. Parce qu'il y a bon, des personnes des personnes jeunes qui vont travailler assez loin. Elles aiment bien que leur voiture, elle soit tout près de leur logement. Moi, je suis retraité. Je peux me passer de voiture, même. C'est pas un souci. Donc là, il peut y avoir des intérêts divergents.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que il existe une vie dans l'association. on se réunit très régulièrement. On a des assemblées générales en principe une fois par mois, et on travaille aussi sur toutes ces choses-là ensemble pour voir. Pour arriver à ce qu'on puisse réaliser des choses qui conviennent à tout le monde.
Ouais.
Généralement, ça marche.
Mais par exemple, est-ce que vous avez envisagé, et moi-même je ne l'ai pas proposé, mais ça me vient à l'esprit là. Bien sûr, on peut penser qu'une voiture n'est pas nécessaire pour chaque personne de cet habitat, mais on peut aussi imaginer un système de location de voitures en commun.
Bah même sans la louer, hein, un partage de voitures.
Un partage de voitures.
Bah oui, ça me gêne
même
pas du tout
louer,
de filer les clés à quelqu'un que je connais quand même. Hein,
oui, non,
sûr.
Mais il faut que ça soit très organisé.
Si on a besoin, et puis il n'y a pas de souci.
Il faut que ça soit très organisé. Ça se fait au niveau de Montréal et des gens qui ne sont même pas, qui n'habitent pas dans un habitat partagé, donc dans un habitat...
Bah après, la location de voitures particulières, ça existe.
Oui.
Mais là, l'idée, c'est plus quoi...
Non, mais
à mon sens,
des
ce
voitures.
Serait mieux voilà, de partager sans
oui,
avoir
oui,
besoin
bien
de
sûr.
Louer. Quoi, parce que...
Mais non, ce qui résoudrait le problème du parking...
Ça pourrait être intégré à l'habitat, de toute façon, la location. C'est que l'habitat pourrait louer... Enfin, l'association... Où le groupement d'habitat pourrait louer en son nom une voiture et que tous les habitants et habitantes pourraient bénéficier.
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est aussi une solution à envisager.
Oui, c'est complexe. Du fait que la loi en France est très en retard comparé à ce qui se passe en Allemagne ou en Belgique, par exemple, où ils sont beaucoup plus en avance, où il y a donc plus de développement d'habitat participatif. C'est la loi impose un logement, une place de parking par logement. Bon, il y a quand même des moyens de tourner autour de cette loi sans tomber dans l'illégalité, bien entendu.
Bah après, on peut faire la place de parking et la laisser vide. Hein.
Mais dans notre...
Non, mais c'est vrai.
Oui, mais ça prend de la place après. Il faut que tu le prévois dans le plan de construction, en fait.
Ouais. Ah oui.
Donc c'est...
Tout est à prévoir à l'avance.
Dans notre optique écologique, bon, on voudrait arriver à un monde sans voiture, aller vers un monde sans voiture. Mais on sait que ce ne sera pas possible demain matin. Que, bon, surtout dans une ville comme Reims, où tout est prévu pour la voiture. Quoi qu'en dise la mairie actuellement...
Il n'y a pas que Reims. Hein,
si tu vas à Strasbourg, par exemple, ce n'est pas du tout la même chose.
Bah, ce n'est pas la même échelle de ville, déjà.
Oui, mais bon, c'est pas forcément une question d'échelle. Il y a une volonté de faire la place au vélo et
au transport en commun. À Strasbourg, tu laisses ta voiture sur le parking et puis tu voyages en tram, quoi.
Donc, voilà, c'est ça.
Et t'as presque même pas le choix de faire autrement.
Tu achètes le ticket de tram avec la place de parking.
Ouais,
en fait, ça veut dire qu'elle est gratuite, quoi.
Ouais, ouais.
Et bon, à Reims, on est très très loin de ça.
On a des années-lumière, oui.
On n'est pas non plus dans, du tout dans la même taille de
taille
métropole.
De ville, ouais, c'est pas pareil.
Donc, c'est pas comparable, mais...
Oui, et puis Reims a été une ville test par rapport à, aux zones commerciales. Le fait d'avoir, d'implanter en double, à chaque entrée de la ville, les grandes surfaces, Reims a été une ville test pour ça. Donc tu avais forcément besoin de la voiture pour aller au carrefour d'un côté, au carrefour de l'autre, pour Cora pareil, Leclerc pareil, donc... Voilà, ça a été un oui. choix.
Oui, dans les années 60, il y avait toutes les grandes succursales multiples qui étaient installées sur Reims, Goulet, Turpac, Comptoir Français, il y avait plusieurs. Donc, ça a été tout de suite le champ de bataille de ces grandes succursales. Et donc, on a toujours et de loin le plus grand nombre d'hypermarchés par tête d'habitant.
Et ça continue, ils sont encore en train de vouloir construire.
Oui, c'est du dumping, c'est à celui qui est prêt à le perdre le plus d'argent dans cette histoire-là pour pouvoir remporter toute la mise.
Bon, revenons à notre habitat.
Quel est le projet principal, c'est de construire un habitat ou c'est pour promouvoir les habitats? Est-ce qu'il y a, tout à l'heure je crois que tu l'as dit, il y a plusieurs projets d'habitat en cours. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Alors, bon, un tout petit historique
pour expliquer.
Il existe entre la rue du Barbâtre et la rue Ponsardin, un endroit qu'on appelle l'îlot Saint-Gilles, qui est bordé au nord par la rue Mont-Laurent et au sud par la rue Mont-Laurent et au nord par la cour par le cours L'Épagnol. Et à l'intérieur de ce petit îlot, il y a la cour des Échelles, il y a le passage Saint-Gilles, et c'est l'un des plus anciens quartiers de Reims. C'était autrefois le quartier des artisans. C'est beaucoup de petites maisons complètement imbriquées sur le cadastre. C'est une vraie folie, mais c'est ravissant. Et il y avait donc la ville avait préempté la plupart de ces des terrains. À chaque fois qu'un terrain s'est libéré, il préemptait. Et donc il y a une association qui s'est créée autour d'une friche, qui était en fait un dépotoir. Ils l'ont complètement nettoyé et ils en ont fait un jardin partagé. Ce jardin, ça fait maintenant 11 ans, un peu plus de 11 ans, il existe toujours. Et j'en fais partie aussi. Et c'est vraiment très agréable, comme ça, en plein centre de ville, de pouvoir être dans un endroit où, avec des fleurs, avec de la verdure et tout ça. C'est vraiment chouette. Et justement, des gens qui ont été attirés par ce jardin, parmi eux, il y en a certains qui faisaient partie de Frat Habitat. Et là, le long du passage, il y a un mur immense qui cache le soleil. C'est un peu dommage pour le jardin. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? C'était un mystère. Et on a appris que cette partie-là était également préemptée par la mairie et qu'il y avait beaucoup de place. Et donc, toutes ces personnes, j'y étais pas encore, qui avaient créé l'association Frat Habitat, dans le but de créer un habitat participatif, se disent, mais c'est un lieu qui est intéressant pour créer ça. Donc, ils ont cherché des partenaires, donc ils ont pris un partenariat avec Reims Habitat, qui était à cette époque au PHLM, et ils ont créé une convention... avec également Culturel Îlot Saint-Gilles qui s'occupe des jardins, parce que les deux associations travaillent complètement ensemble dans le but de réaliser un habitat participatif. Donc avec le parrainage de la ville de Reims, et on a la signature de M. Robinet. Donc on a travaillé là-dessus dans un très bon esprit, et ça c'était 2018. Et jusque la fin 2020. Et on avait bien avancé. On en était au POS, le plan d'occupation des sols, c'est-à-dire la dernière étape avant le permis de construire. Et là, un coup de massue, le plan d'occupation des sols est refusé par la mairie pour des raisons politiques.
Développe. Ça me...
Bon, le courrier qui a été envoyé à Reims Habitat demandait la transformation du projet. Donc, derrière le politique... Bon, il y a déjà... on prône la mixité sociale. Dans ce coin-là, ça ne plaît pas trop. Il faut le dire.
D'accord.
Parce qu'on voit toutes les réalisations qui se font. C'est du luxe. C'est un type d'habitat qui est accessible à très, très peu de Rémois.
Hein,
en tout cas, pas nous. Hein. Et bon, il y a ça. Il y a aussi certains voisins qui ont le bras long et qui n'ont pas envie de voir arriver des gens qui prennent pour des babacools. On a même entendu le terme « cours des miracles
okay. ».
Bon, c'est, y a encore du chemin à faire au niveau des mentalités. Et toujours est-il qu'on s'est trouvé donc en 2021 complètement bloqué. Non, c'était fin 2021. 2022, je me mélange dans les dates.
Décembre 2021.
Décembre 2021.
Novembre, décembre 2021.
Voilà, c'est ça, oui. Et là, donc on nous signifie que le projet s'arrête. Parce que bon, il fallait avec des contraintes qui étaient complètement différentes et qui n'étaient pas compatibles avec la trentaine de logements qui étaient prévus au départ, et sans aucune concertation, et on a envoyé plusieurs courriers à Reims Habitat, qui entre-temps, et ça explique aussi en partie très certainement, a changé de statut, n'est plus office public HLM, il n'y en a plus du tout sur Reims, mais est devenu une société d'économie mixte, donc avec les fonds principalement détenus par la mairie. Le président est un politique nommé par le maire. Il est issu de la banque, que ça explique un petit peu son esprit. Et voilà, donc ça a été un coup d'arrêt violent. Donc on l'a très très mal vécu, parce que on n'avait aucune réponse à nos demandes de courrier, d'entrevue, rien du tout, jusqu'en juillet, où on nous a présenté un nouveau projet. Reims Habitat nous a présenté un projet qu'ils ont sorti du chapeau, conçu sans aucune participation de notre part, et qu'eux, ils considéraient comme de l'habitat participatif. On s'est réunis en assemblée générale après avoir quand même épluché leurs propositions. Et bon, ça cochait pas les cases. Il n'y avait pas de lieu commun. Les lieux communs dans un habitat participatif, c'est le noyau, c'est ce qui crée l'âme. Il faut des endroits pour se réunir, il faut des endroits pour travailler, des ateliers, il faut des endroits pour réparer les vélos, des tas de choses comme ça. Il faut des endroits pour les enfants, il faut des endroits pour accueillir les gens qui viennent de l'extérieur.
Oui, la vie, quoi, la vie du lieu, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc, si on n'a pas cet espace pour le faire, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Par contre, ils avaient trouvé des...
un commerce.
Oui, ils voulaient nous faire avaler un commerce.
De poissons.
Un tiers-lieu qui serait géré par on ne sait pas qui. Bon, je ne suis pas contre les tiers-lieux, mais c'est pas notre projet, tout simplement. Donc, à l'unanimité, on a dit non. Et la situation a été bloquée jusque... on a envoyé un dossier de presse, je pense que vous l'avez vu également. C'était en octobre. Donc, en novembre, on a eu l'Union nous a demandé un rendez-vous. On les a emmenés justement dans le jardin. Et on l'a, parce qu'on voyait l'autre côté du mur.
Mmh.
Le mystère de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qu'ils allaient nous faire derrière? Et à partir de là, Reims Habitat est sorti du bois. Ils nous ont envoyé des courriers et ils nous ont demandé une rencontre le 20 janvier. Donc le 20 janvier, on est allé à cette rencontre. Bon, on n'y croyait plus trop. Hein. On avait trop pris sur la gamelle. Donc ça a été très compliqué, très, je dirais même presque à la limite de la violence. Mais on est arrivé, on a trouvé... Leur fil rouge, c'est le nombre d'appartements. Ils veulent limiter à 12. Donc on a rebondi là-dessus. D'accord, 12 appartements, mais tout le reste est négociable. On peut faire ce qu'on veut sur le reste. On a dit, et ça a été OK. Donc, on a fait un compte-rendu commun là-dessus, rappelant toutes nos valeurs. On était parti de nos valeurs, ils les ont acceptées. Hein. Faut dire aussi qu'entre-temps, il y a eu une directrice, la directrice générale de Reims Habitat est une personne qui connaît l'habitat participatif et qui a déjà participé à la réalisation ailleurs et qui a la volonté que ça marche. Donc, on a un calendrier, on va avoir des rencontres et des copiles et tout ça. C'est sur les rails et j'espère bien qu'on va y arriver. Donc là, ça va être compliqué parce que notamment sur la mixité sociale, c'est un endroit où le mètre carré est cher et ils ont toujours des espoirs de rentabilité. Bon, nous, on sait bien, et ils le savent bien au fond d'eux, ils savent très bien que ce ne sera jamais rentable.
Ouais.
Parce que, mais aussi, pour la ville, c'est une vitrine. Et pour eux, c'est aussi un laboratoire. Et ça, on y tient aussi à cette valeur-là. De laboratoire pour l'habitat du futur. Où on va tester des nouveaux matériaux, on va tester des nouvelles conceptions concernant la vie, compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu que la vie en ville va devenir de plus en plus complexe. Et donc, c'est quelque chose. On se projette, c'est pas seulement on va construire quelque chose et on va être dedans. Et là, si ça marche bien tel que c'est parti, en 2025, on est dedans. Si ça clash pas, parce que c'est toujours possible. Mais dedans, ça s'arrête pas là. On veut y être pour longtemps et pour les générations d'après et que ça serve aussi de modèle pour essaimer ailleurs. On a que le projet se réalise ou pas. On a déjà pris des contacts avec différentes mairies. Je ne vais pas développer tant que ni donner de précision tant que les choses ne sont pas concrétisées. Mais bon, dans un rayon, on travaille dans un rayon de 30 km autour de Reims.
D'accord.
Et je pense qu'on est capable de mener plusieurs projets de front.
Cool. Eh ben, on va faire un tout petit break musical. Après, je veux bien qu'on reparle de laboratoire. À tout de suite.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. Va donc.
Au 1er janvier 2021, on comptait en France 37,2 millions de logements, hors Mayotte. 30 504 000 de résidences principales, donc un peu moins de 7 millions de résidences secondaires. En même temps, en juillet 2021, on comptait 1,1 million de logements vides, enfin vacants, depuis au moins 2 ans dans le parc privé. Et en France, en 2018, 1,9 million de personnes sont en situation de grande pauvreté et 170 000 sont susceptibles de l'être. Parmi les 1,9 million de personnes vivant en logement ordinaire, en habitation mobile ou sans domicile, en situation de grande pauvreté, 35% sont des enfants, 7% ont 65 ans ou plus, 24% vivent dans des DOM, dont 10% à Mayotte et 14% dans les autres, dans les 4 autres. Hein. De plus, 79 000 personnes vivant en EHPAD ou autre établissement sanitaire ou social et 86 000 vivent en cité universitaire ou foyer ont des revenus particulièrement faibles et sont donc susceptibles d'être en situation de grande pauvreté. Voilà, j'aime bien mettre en parallèle les logements vacants, inoccupés et le nombre de personnes qui sont en détresse. Et en 2017, 58% des ménages résidant en France possèdent au moins un logement, que ce soit leur résidence principale ou non. Au total, ils détiennent 28,4 millions de logements, maisons ou appartements en nom propre ou via une société civile immobilière. La majorité des ménages propriétaires ne possèdent qu'un logement. Ça représente 34% de l'ensemble des ménages. Donc je suis allé chercher le nombre de ménages en 2017 sur l'INSEE et en 2017 en France, hors Mayotte, 65 millions de personnes habitent dans 29,5 millions de résidences principales, constituant autant de ménages. Et après, je suis allé faire un tour sur les ménages multipropriétaires. Parce qu'en fait, 7,3 millions de ménages sont propriétaires de 2 biens immobiliers ou plus. Ces multipropriétaires représentent 24% des ménages résidant en France et disposent des 2/3 du parc de logements détenus par les particuliers. Moi, ça m'effraie. La moitié d'entre eux, soit 13% des ménages, possèdent exactement 2 biens et près d'un quart du parc des logements. Les ménages restants, propriétaires de 3 logements ou plus, donc 11% des ménages, possèdent quant à eux près de la moitié du parc, 46%. La propriété des logements en location est encore plus concentrée puisque les ménages détenant au moins 5 logements, soit 1 million des ménages, détiennent 50% des logements en location possédés par des particuliers, alors qu'ils ne représentent que 3,5% des ménages. Cette concentration de la propriété des logements en location reflète une logique d'accumulation patrimoniale qui s'appuie notamment sur le recours aux SCI, ce que j'ai dit tout à l'heure, les sociétés
civiles immobilières.
Exactement. Après, j'ai voulu me pencher sur les surfaces commerciales inoccupées, que ce soit les bureaux ou les entrepôts, mais j'ai pas trouvé vraiment de chiffres. Donc voilà, je me suis arrêté là. J'ai trouvé ça déjà assez éloquent comme situation.
C'est que t'es jaloux, c'est pour ça.
Ça fait une grosse avalanche de chiffres là, quand même.
Oui.
Tu te rends compte, les ménages détenant au moins 5 logements, soit 1 million des ménages, détiennent 50% des logements en location possédés par des particuliers. Enfin, moi, ça m'effraie. Et après, j'avais les catégories par rapport aux tranches d'âge et je me suis dit, je parlerai pas de ça. Donc voilà, je suis content de parler de ça et après de revenir à ton projet, à votre projet, au projet au sens large que Frat Habitat International peut proposer. Et donc tout à l'heure, tu parlais de laboratoire. Hein. Et donc on parlait de lieu de vie. Donc ma question, c'était est-ce qu'il y avait une vie économique, entre guillemets, de prévu au sein du projet? Parce qu'on est d'accord que tout à l'heure tu parlais des problèmes de voiture pour aller travailler, mais si on se dit bah tiens, on va créer un espace de vie et de travail au sein de notre habitat, ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant, mais on n'envisage pas ça dans l'immédiat.
D'accord.
C'est déjà très complexe de pouvoir réaliser les logements. Mais ça se ferait dans une deuxième tranche. Enfin, je parle toujours du projet Îlot Saint-Gilles.
J'entends bien, oui.
Hein? Parce que donc, j'avais dit qu'on avait un partenariat avec la culture et l'Îlot Saint-Gilles, les jardins. Parce que ça ne limite pas aux jardins, parce que culture, il y a un S. C'est tous les projets culturels qui peuvent avoir lieu sur ce morceau de quartier et également en lien avec les habitants du quartier, mais également aussi tout ce qui concerne l'écologie, les bâtiments du quartier, et notamment il y a une métallerie, un endroit très intéressant qui se trouve cours l'Épagnol, et qui était un sous-traitant des VMC, où il fabriquait les moules pour faire les verres ou les choses comme ça.
D'accord.
Et donc ça, c'est resté dans son jus, les moules sont encore posés sur la table, c'est tel quel. Et bon, il y a comme ça plein de traces, c'est du patrimoine artisanal et ouvrier de Reims dans ce quartier qui sont intéressantes, qu'il faut sauvegarder. Donc le projet, il y a l'habitat, mais ça va bien au-delà, ça va aussi dans la vie du quartier, comment intégrer tout cela. Bon, faire des écolieux et tout ça, oui, mais ce serait une deuxième tranche du projet. D'accord. Et là, avec une, ce serait toujours en coopération avec Culture à l'île aux Saint-Gilles, mais ce serait plus eux qui auraient la main, parce qu'ils sont plus imbriqués dans la vie du quartier, c'est plus leur domaine. Mais on travaille toujours la main dans la main. Quand on a une réunion avec qui que ce soit, d'ailleurs, bon, si c'est Frat qui la demande, il y a un représentant de Culture et vice versa. Dans les comités de pilotage, il y aura aussi une personne de Culture et Loup Saint-Gilles qui sera présente. Les deux associations sont sœurs, sont indissociables.
Ouais, elles sont imbriquées de toute façon, parce que oui. Il y a des membres. Quoi, des personnes qui sont membres des deux associations. Donc.
Oui, chaque association adhère à l'autre, paye une cotisation, adhère à l'autre. Donc, moi, je suis président de Frat Habitat, mais je suis aussi au comité d'administration de Culture à l'île aux Saint-Gilles. Et la présidente de Culture à l'île aux Saint-Gilles est aussi au comité d'administration de Frat Habitat.
Je vais revenir sur un point qui me paraît essentiel et bizarre. C'est que là, tu as dit que le projet, il l'avait accepté avec 12 logements.
Oui.
Donc juste, tu vas nous dire combien de logements vous aviez prévu, mais comment on peut envisager un logement intergénérationnel, interculturel, avec juste 12 logements? C'est difficilement concevable quand même.
Mais de toute façon, au départ, il y en avait 30.
Non, c'était
dans
pas
le
au départ,
premier
en fait.
Projet. Le projet de Reims Habitat, oui. Il est de 2020, là.
Oui, il y a eu une phase où ils nous ont proposé 30 logements pour des questions de rentabilisation de l'opération. Parce que, les membres fondateurs de Frat Habitat étaient partis sur des structures plus petites, plus à taille humaine. Une quinzaine de logements. On avait parlé de 16 logements. Et il y a des textes qui avaient été faits là-dessus. Et Reims Habitat avait levé les bras au ciel en disant, mais c'est économiquement, c'est pas viable. On pourra jamais faire ça. On vous propose 30 logements. Bon, on s'est dit, bon, c'était un défi à relever, pourquoi pas. Et donc, on a renforcé l'association, on a pris des nouveaux membres et tout ça. Et on était prêts à le faire. Et jusqu'à un moment donné où c'est eux qui ont arrêté en disant, non, on descend à 12 logements. Donc, 12 logements, nous, on veut bien. Mais à condition qu'il y ait mixité sociale, à condition qu'il y ait respect des valeurs écologiques et tout ça. Bon, là-dessus, on pense que ça, c'est faisable. Parce que l'architecte qui a été retenu a été membre de notre association pendant longtemps. Il a démissionné à partir du moment où il a été choisi par Reims Habitat. Et il a les valeurs, il développe les valeurs écologiques dans toutes ses réalisations. Il a déjà fait de l'éco-habitat dans la région.
Je vois pas. Moi, j'ai visité la semaine dernière les lieux. Alors, je ne vois pas où le projet de 12 logements va être construit. C'est-à-dire, est-ce que ça sera tout ce qui donne sur la rue Mont-Laurent, ou est-ce qu'il y a aussi des espaces qui sont dans les autres cours ou les autres passages
Alors, au départ, le projet, bon, il est sur les terrains qui ont été achetés par Reims Habitat pour la réalisation d'un projet intergénérationnel, c'est-à-dire compris entre le mur qui longe le passage Saint-Gilles et la rue Mont-Laurent. Hein, bon, Bon, il y a des maisons qui lui appartiennent pas, qui sont là. Mais bon, à l'intérieur, il y a énormément de place. Il y avait de quoi, effectivement, faire 30 logements. Mais là, donc, la volonté du maire est de dédensifier. Donc, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire, mais il l'utilise, dédensifier, c'est-à-dire ne pas arriver à plus de 2 étages, alors qu'il y a des 3, 4, 5, 6 étages qui se construisent autour.
Oui, c'est ça aussi que je ne comprends pas de la part de la municipalité. C'est que partout, maintenant, dans les villes, on essaye de densifier, au contraire, pour justement faire des économies.
Oui, et puis là, avoir moins d'implication par rapport à l'occupation du...
D'emprise au sol. Hein.
Exactement, l'occupation des sols et éviter d'avoir des villes qui s'étendent très loin. Mais justement, là, c'est le contraire.
C'est sûr qu'un immeuble, c'est quand même, au niveau de l'empreinte sur la nature, c'est quand même 1000 fois mieux que 50 ou 150 pavillons. Quoi.
Oui,
ça, c'est
bien
clair.
Sûr.
Il y a aussi une misère pavillonnaire.
Développe.
Bah, c'est les gens qui vont acheter des pavillons clés en main à la campagne et qui sont obligés donc d'avoir 2 voitures qui ont qui s'endettent pour 20, 30, 35 ans. Mmh. Ils ont un niveau de vie qui est proche de la misère. Ils sont obligés de compter sur tout pour pouvoir s'en sortir. C'est un modèle qui a été développé dans les années 60, qui a été pratiquement imposé. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne marche plus, qu'on n'est même plus capable de payer l'essence pour aller travailler. Ça a donné les gilets jaunes.
Oui, mais en fait, si ça marche dans leur système, est-ce qu'en fait, grâce à ça, tu obliges les gens à vouloir travailler plus, à travailler toujours, pour toujours. Ils ont toujours besoin d'argent pour continuer à vivre dans ce rythme-là.
Oui, c'est une mise en esclavage, en fait.
Oui, c'est
dissimulé, mais...
C'est ça, c'est que tu maintiens une carotte pour les faire avancer. Donc, si, dans leur... Dans leur concept, ça fonctionne.
Sauf qu'ils n'ont même plus de carottes à leur présenter aujourd'hui. C'est ça qui est le problème. C'est là le problème.
J'allais rebondir sur un truc, mais je vais passer un petit morceau de musique et je pose ma question juste après. À tout de suite.
Ah, oui, ce qui serait bien, c'est que toi aussi, tu dises comment toi tu vois.
C'est une maison bleue. Adossé à la colline, on y vient à pied. On ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera ta mala guitare. File à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco. Où êtes-vous, Lise de Luc, Sylvia, attendez-moi.
Ah ben, j'ai retrouvé ma question. Tout à l'heure, je crois que tu disais que vous étiez une... En gros, il y avait 80 personnes adhérentes au FRAT. Combien de personnes souhaitent vivre au projet de construction de l'îlot Saint-Gilles? Et est-ce que vous avez perdu des... Est-ce que des personnes ont abandonné suite à l'abandon du projet initial qui est intervenu quand Reims a dit stop? Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de vous rejoindre?
Alors, oui, on a perdu du monde.
Ben, par exemple, Josiane. Josiane qui était partante depuis le début. Et puis, comme les choses ont traîné, et puis qu'on l'a obligée à déménager, elle ne veut plus participer maintenant.
Il y a aussi des personnes qui sont dans le projet dès le départ, mais bon, qui étaient déjà âgées à ce moment-là. Et ouais. pour elles, plus ça devient lointain, moins ça devient possible pour elles. Ouais. Il y a aussi le cas d'une personne qui vraiment à fond dans le projet, qui adore ça, mais qui a une famille nombreuse, qui est dans un logement qui est trop petit, ils ne peuvent plus attendre, ils vont aller ailleurs. Mmh. Et c'est vrai que ça nous a fait du mal. Mais en même temps, on n'a pas perdu, même pendant le Covid, on n'a pas perdu d'adhérents, parce qu'il y a des gens qui s'en vont, mais il y a d'autres gens qui viennent.
Ouais.
Et notamment des jeunes. Et on a eu la surprise d'avoir un contact d'un groupe qui s'était constitué spontanément, en discutant, en disant quand même, ça ne va pas d'habiter chacun dans son coin, tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? Ils ont commencé à travailler là-dessus, à lancer des idées. Et ils ont appris notre existence. Donc, on les a rencontrés d'abord de manière informelle. Et donc, plutôt que de créer leur association pour faire leur truc de leur côté, on s'est aperçu qu'on était complètement en phase au niveau des valeurs. Et que, il n'y avait aucune raison de ne pas travailler ensemble. Ils ont donc adhéré, ils ont adhéré à Frat Habitat, et maintenant on travaille tous ensemble à la réalisation donc du projet L'îlot Saint-Gilles, mais également sur d'autres projets. On rencontre les élus, donc c'est des projets qui par nature seront un peu différents, on ne peut pas reproduire la même chose, mais quelque chose de moins urbain, ça peut être aussi également intéressant.
Mm-hmm. Bah, de toute façon, c'est l'avenir, quoi. Je pense que ce type d'habitat c'est quand même parce que les individus on a tendance à vouloir la société veut nous isoler, mais en fait l'humain est un être social, quoi. Donc on peut pas vivre chacun chez soi dans son précaré, quoi. Il y a un moment où ça a ses limites. Donc je pense que il y a beaucoup de gens aussi qui aspirent quand même à ce type d'habitat.
Je suis entièrement d'accord. Je pense que ce type de logement, que ça soit écologiquement, économiquement, socialement, on a tellement perdu. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Et donc, ma question, c'était les élus que vous rencontrez, comment ils vous accueillent? Comment ils accueillent un projet comme ça? Est-ce qu'ils vous disent, on le veut? Est-ce que vous dites, faites ça quelque part et vous viendrez nous voir si ça marche? Comment ils réagissent?
Ils réagissent d'une manière assez agaçante, c'est-à-dire que tout le monde trouve ça, oh, c'est magnifique, c'est bien ce que vous faites, faut pas lâcher, allez-y. Mais derrière, il n'y a rien, absolument rien.
Mais ça, c'est habituel à Reims, c'est toujours comme ça. Ils sont derrière tous les projets, mais ils sont d'accord qu'on fasse plein de trucs, mais en fait...
Il n'y a qu'un seul. On a envoyé des dossiers à chaque élu, non seulement de Reims, mais aussi de toute la communauté de communes, le Grand Reims, ça commence à aller loin, tu vois, ça fait du monde. Il n'y a qu'un seul élu qui nous a répondu, c'est M. Léo Tiburs. C'est le seul. On n'a eu aucune autre réponse.
Ouais. Oui, c'est 143 communes, hein, le Grand Reims.
Oui, ouais. Et ça en fait des conseillers. Hein.
Ouais,
donc
ouais.
On avait fait un gros, gros travail là-dessus. Ça ne donne pas.
Ouais, pourtant, je suis sûr qu'il y a des communes dans le Grand Reims que ça pourrait intéresser. Parce qu'il y a des petites communes entre ici et Fismes. Je suis sûr que ça pourrait intéresser d'avoir des projets d'habitat comme ça. Puis je pense même qu'ils ont des terrains où ça pourrait être intéressant. Vous avez des vues sur un projet comme ça en campagne, hein?
Alors, dans des zones périurbaines actuellement,
okay.
Mais pas rurales. D'accord. pour l'instant. Parce qu'il y a aussi une dimension dont on n'a pas parlé et qui est quand même essentielle dans notre association, c'est l'intergénérationnel. Tout de suite, tu as dit le social et l'économique, ils ne sont pas nécessairement antinomiques. Et justement, l'intergénérationnel, c'est quelque chose qui, au niveau social, mais aussi au niveau individuel, est très intéressant économiquement. Mmh. Il vaut mieux, effectivement, que l'on vive ensemble avec plusieurs générations dans un même lieu où il y a des entraides mutuelles, plutôt que d'aller en maison de retraite, qui coûte très cher aussi bien à la famille de la personne qui va en maison de retraite qu'à la société.
Oui, bien sûr.
Voir qui est vraiment tellement cher que c'est inabordable. Quoi, pour,
voir oui. Non, mais oui, c'est inabordable et inhumain, parce qu'en fait, tu obliges des personnes à être dans un lieu qu'ils n'ont pas envie et voir des personnes qu'ils n'ont pas forcément envie, alors que là, tu leur proposes de vivre avec des personnes et dans un lieu qu'elles auraient plus ou moins choisi. Donc, c'est sûr.
Et puis, il est aussi démontré que quand des personnes âgées vivent avec des plus jeunes, et même voire avec des enfants, et bien, ça les maintient en vie. Alors que vivre entre personnes âgées, il n'y a rien qui les retient.
Ouais. Bon, c'est attention, la maison de retraite, ce n'est pas forcément l'enfer non plus.
Non,
ce n'est pas ce qu'on dit. Tant qu'on est en santé suffisamment bonne pour continuer à vivre dans un logement chez soi, c'est quand même mieux.
Avoir des contacts humains plutôt que...
Mais lorsqu'une personne devient trop dépendante, même dans un habitat participatif, ça ne sera plus possible.
Ben oui, non, ben ça, bien sûr.
Et justement, la question, c'est est-ce que c'est le genre de question que vous discutez lorsque vous montez des projets ? En fait, justement, ce genre de question, comment... la question aussi, est-ce qu'on va acheter les logements ? Est-ce qu'on va... L'association achète pour louer des logements ? Est-ce que les personnes qui vont participer, comment ça se passe ? En fait, tout ça, ce que je pense que c'est compliqué de créer toute cette structure-là.
C'est compliqué. Alors déjà, l'association n'achète rien. Hein. Il y a dans les projets, il y a des personnes qui achèteront leur logement, d'accord. d'autres qui souhaitent être locataires. Okay. Hein. L'association, elle sera locataire des lieux communs. Et d'accord. ce sera réparti soit sur les propriétaires, soit sur les locataires, de manière en fonction des mètres carrés occupés.
D'accord.
Et le reste de la question... J'ai oublié.
Mais en fait, c'est forcément comment on définit ce qui rentre, ce qui... Mais les questions difficiles, dire à une personne, mais voilà, il est peut-être que maintenant il faut quitter le logement parce que vous êtes devenu trop âgé ou parce que ça se passe mal avec les autres personnes. Forcément, c'est des questions que vous devez aborder, je pense.
Oui, on l'aborde pas en profondeur actuellement. Sur les niveaux des personnes, parce que c'est quelque chose qui se révélera avec l'usage. Par contre, au niveau des lieux, des constructions, oui, bon, par exemple, je discutais, bon, on a une adhérente qui est malvoyante, et d'ailleurs, l'association Valentin Haüy est adhérente en tant que telle à notre association, d'accord. et donc, ce sera aussi un habitat inclusif. Et par exemple, je discutais avec Monique l'autre jour du sens de faire un plan de circulation pour les fauteuils. Mm-hmm. Donc on prend en compte les handicaps des gens avérés ou futurs, hein, et on sait très bien que bon l'intergénérationnel amène à des individus à des situations où ils ne pourront plus être autonomes. On ne pourra la solidarité développée entre les habitants ne suffira plus.
Bien sûr.
Mais on va essayer de repousser ça le plus loin possible. C'est-à-dire les places de, il y aura quand même quelques places de parking. Ce sera pour la kiné, ce sera etc. Hein. On pense à ça effectivement dans la conception. Après, pour le vivre, on ne sait pas comment ce sera. Mais à partir du moment où ça a été conçu au départ, je pense que ce sera beaucoup plus facile.
Oui, bien sûr. Non, mais en plus, c'était au-delà de savoir si vous aviez répondu à ces questions-là, c'est est-ce que les personnes ont conscience que ces questions-là vont se poser à un moment donné, en fait. C'était plutôt ça, ma question.
Ah oui, bien sûr.
Non, mais voilà,
on a tous conscience.
C'est OK. Je vois le temps qui passe et on va devoir bientôt s'arrêter. Alors moi, j'aime beaucoup ton projet, votre projet. Je partage l'avis de Cécile. Je pense que on n'aura pas le choix d'y revenir, parce que comme je le disais en introduction, je pense qu'on a tous vécu comme ça dans les sociétés avant qu'on devienne civilisé. Et Benoît, si je te laisse le mot de la fin, si tu veux ce que tu veux dire.
Alors, je veux dire, je veux faire un appel, parce que on a créé un site internet pour Frat Habitat il y a déjà quelques années. Et il est en déshérence parce que personne ne sait s'en occuper. Donc, je fais un appel aux bonnes volontés, bénévolat ou autre d'ailleurs, c'est à négocier, pour que trouver quelqu'un qui ait les compétences pour le faire fonctionner. Ça, ce serait un gros progrès pour nous. J'aimerais bien trouver... Voilà, j'ai lancé mon appel. Maintenant, bon, en conclusion, je n'ai pas pensé faire de conclusion...
Alors, en tout cas...
Mais non, l'aventure est en chemin.
Oui.
Et il faut continuer, c'est tout.
L'appel est lancé. Vous pouvez toujours contacter la radio par mail ou par téléphone. Et de toute façon, Mo ou n'importe qui nous retransmettra l'information. Donc, voilà. Si vous avez... si vous aimez le projet, vous pouvez toujours... C'est vrai que j'avais regardé sur Internet, Frat Habitat, c'est compliqué de trouver des informations. Si vous êtes curieux, curieuse, allez faire un tour à la MVA et puis avec un peu de chance, vous tomberez un jour où il y aura une AG où vous renseignez et puis vous pourrez peut-être rencontrer
des
personnes.
Il y a des permanences.
Oui, on a relancé les permanences chaque samedi matin à partir de 9h30 jusqu'à midi. Donc il y a, sauf le dernier samedi du mois qui est pris par Culturalis Saint-Gilles pour faire son conseil d'administration, qui est suivi ensuite, et ça, qu'on fasse partie de l'association de l'une ou de l'autre ou d'aucune, ça vaut d'une visite de tout l'îlot, et qui est par une personne qui connaît vraiment très très bien tout l'environnement, et ça vaut la peine, c'est vraiment très intéressant.
Oui, je vous encourage à avoir la curiosité d'y aller, parce que c'est vraiment très intéressant.
C'est tous les derniers samedis du mois.
Oui, ouais. À 11h, c'est ça.
À 11h, oui. Oui, c'est très intéressant.
Super. Sylviane, Cécile, Benoît, merci.
Merci.
Moi,
merci.
Je vous dis au mois prochain, et ce mois-ci, on termine avec Trio, on avancera.
Commençons par refaire le monde avant de ressasser le passé. On sait tous que la terre est ronde. Marchons dessus sans trop l'abîmer. Alors on verra les couleurs, nos différences, nos valeurs, celles des gens unis qui voudraient tous avoir une vie, la vie. On avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos choix. Avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois. On avancera avant que ça, avant que ça, avant que ça.
Allons vers la métamorphose, s'évader, sortir de l'hypnose. Écouter celui qui propose, s'envoler, être de ceux qui osent.
Marcher pieds nus sur un fil, y voyager de ville en ville, savourer les moments futiles qu'on aurait pu croire inutiles, inutiles. On avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos joies. On avancera avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois.
Sourire des mômes dans une vie plus belle que celle qu'on a jouée. Allons redécouvrir l'atome, fixons un prix à ne pas dépasser.
Redonner de l'air à l'enfance, un futur pour sa descendance, et pour qu'ils aient une existence. Mettons du poids dans la balance, en cadence. On avancera un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos choix. On avancera avec les idées claires, on pourra tout faire, on sera les rois. On avancera,
refaire le monde.
On avancera,
sans perdre une seconde.
On avancera,
métamorphose.
On avancera,
de ce qui ose.
On avancera, un pas de travers, les yeux grands ouverts, libres de nos choix.